France Culture.
Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin avec Karine Marais, nous allons évoquer dans notre émission de France Culture les liens anciens, faut-il le rappeler, entre la France et les chrétiens d'Orient, autour de votre ouvrage, chère Karine, qui vient de sortir aux éditions Ballant. Je cite votre titre, « Les chrétiens d'Orient et la France, 1000 ans d'une passion tourmentée ». Les chrétiens d'Orient n'existent pas, en tout cas ils ne se définissent pas en tant que tels, écrivez-vous. Trop souvent réduits à un statut de victime, ils sont d'abord les grands témoins de la résurrection du Christ, les premiers messagers de la bonne nouvelle, et ils sont le ciment fragile des sociétés orientales. Leur histoire est souvent tragique, mais elle est surtout et toujours lumineuse. Lumineuse comme à l'époque, le fut celle de la France, terre des cathédrales, aujourd'hui de plus en plus déchristianisée. Bonjour Karine.
Bonjour Sébastien.
Un style dont nous vous sommes reconnaissants pour cette fresque passionnée et cultivée qui permet au lecteur de saisir les lignes de permanence, celles de cette lumière qui nous inonde depuis la Révélation. En 450 pages, vous replacez ainsi le clocher au milieu du village. Image de circonstance, j'en conviens. Vous êtes docteur en sciences du langage et nous vous connaissions plutôt pour une œuvre romanesque et théâtrale. Alors ma première question, Karine Marais, c'est comment êtes-vous tombée dans le chaudron des chrétiens d'Orient ?
Déjà, mon intérêt pour le Levant, ce sont des souvenirs d'enfance, puisque ma grand-mère est née à Beyrouth. Et donc, quand j'étais petite, j'entendais des récits de mes arrière-grands-parents, des noms de lieux mystérieux. Et c'était pour moi un imaginaire merveilleux. Donc, il y a eu déjà cet intérêt-là qui est un peu nostalgique, finalement. Et puis, c'est aussi des rencontres. Après, plus tard, c'est toujours un sujet qui m'a passionnée. Et d'ailleurs, comme vous le disiez, en effet, je suis romancière aussi. Et j'ai un de mes romans 2017 qui s'appelait Des silences et des hommes, qui parlait déjà de la diplomatie française, des coulisses de la diplomatie française et des chrétiens d'Orient, et qui allait même jusqu'à Maaloula en Syrie. Et donc cet intérêt était déjà là. Et il se trouve que là, plus récemment, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu l'invasion du Haut-Karabakh de l'Artsar par l'Azerbaïdjan, qui a été précédé d'un blocus, et j'ai été absolument scandalisée par le silence de la communauté internationale, par l'indifférence de la plupart des médias, pas tous heureusement. Et c'est vrai que à partir de là, je me suis dit que il était temps d'aller un peu plus loin dans les choses et de laisser le roman où c'était juste un décor pour vraiment aller dans le vif du sujet.
1000 ans d'une histoire tourmentée, écrivez-vous, Karine Marais. Comment pourrez-vous résumer en quelques phrases ces liens, ces lignes de permanence dont je parlais, qui unissent la France et le Levant, la France et ses communautés chrétiennes en Orient ?
Et ce sont des racines donc qui datent d'il y a très très longtemps, qui ont eu le temps de s'installer dans le temps, de devenir des liens indéfectibles, quelles que soient les communautés dont on parle. C'est vrai qu'il y a par exemple, en ce qui concerne les Maronites, on parle d'une lettre alors qui serait apocryphe, mais une lettre qui quand même symboliquement est très importante, de Saint Louis, où il dit son attachement à la nation maronite, avec les Arméniens aussi. Je pense par exemple au royaume d'Arménie en Cilicie, où il y a eu beaucoup d'échanges, de mariages entre les Francs et l'Arménie, et avec toutes les autres communautés, les Chaldéens qui sont catholiques, par exemple aussi, ont une histoire avec la France. Et la France, en fait, a été la première nation à avoir des relations privilégiées avec l'Empire ottoman, et bien avant toutes les autres puissances. Et après, d'ailleurs, les autres puissances ont voulu avoir un petit peu leur part, elles aussi. aussi. Mais au départ, c'était vraiment la France qui a réussi, dès les capitulations, enfin les premières capitulations, c'est-à-dire dès François Ier en 1536, avec Soliman le Magnifique, à instaurer des ententes et à la France, donc à partir de là, s'est voulue protectrice des chrétiens. Plutôt, au départ, c'était des francs, des sujets français. Après, ça s'est élargi aux sujets catholiques. Ça pouvait être aussi bien les sujets catholiques, donc francs, qui étaient installés là-bas ou qui étaient en pèlerinage. Et aussi les chrétiens qui avaient renoué avec Rome, puisqu'on sait qu'il y a eu le grand schisme avant. Et cette protection-là s'est vraiment élargie à tous les chrétiens en général, puisqu'il y a même des chrétiens donc non catholiques qui n'avaient pas renoué avec Rome, qui ont quand même fait appel au roi régulièrement pour avoir une protection, pour avoir une aide, parce que les consuls à l'époque, les ambassadeurs, avaient énormément de poids auprès des sultans et auprès du pouvoir en place.
Quelle était votre méthode justement pour retrouver les traces de tous ces liens, de toute cette présence française au Levant ?
Alors j'ai tenu beaucoup à retrouver des documents bruts, à ne pas travailler sur des livres qui avaient déjà travaillé sur ces documents-là et qui en avaient déjà fait une synthèse, parce que je trouve que même la formulation peut être très intéressante. Par exemple, en ce qui concerne la diplomatie et les capitulations, je suis allée voir les textes des traités dont on a gardé des traductions. C'est formidable parce qu'on ne peut pas imaginer à quel point des documents très 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 anciens sont conservés aujourd'hui, numérisés et auxquels on peut avoir accès. Donc ça, c'était vraiment intéressant de voir, comme par exemple, comment les souverains français, l'appellation qu'on leur donne va évoluer au fil des capitulations. Au début, ils sont juste le prince des Francs, le roi des Francs. Vous savez, c'est toujours très enfantin. Voilà, ça vient de l'Orient. Donc, et après, c'est le roi des catholiques, le roi des chrétiens. Et donc, on voit cette évolution-là à travers juste la formulation des textes. Donc, je suis allée dans les textes, les archives diplomatiques pour les périodes plus récentes aussi, des témoignages, par exemple, que ce soit en Cilicie, quand on a malheureusement abandonné la Cilicie, il y a eu des témoignages qui étaient, communiqués aux ambassadeurs, communiqués aux archives diplomatiques et qu'on a conservés. Donc c'est vraiment des documents bruts à chaque fois, et même en ce qui concerne les témoignages historiques, j'ai cherché toujours à ne pas prendre des livres d'histoire qui racontaient le passé, mais aller chercher les livres historiques de l'époque.
Je citais la première phrase de votre texte tout à l'heure, et il faut que vous nous l'expliquiez. Les chrétiens d'Orient n'existent pas. Que voulez-vous dire ?
Parce que c'est un petit peu un abus de langage quelque part, les chrétiens d'Orient. Et donc, c'est vrai que quand on veut parler de l'ensemble des communautés orientales, si on veut utiliser un mot plutôt que de dresser une liste, on est bien obligé de trouver un mot générique. Et donc, on dit les chrétiens d'Orient. Mais en fait, les chrétiens d'Orient n'existent pas dans le sens où, si vous demandez à un chrétien d'où il vient, en Orient, il va pas vous dire « je suis chrétien d'Orient » ou si vous lui demandez sa confession, il va pas vous répondre « je suis chrétien d'Orient ». Ça n'existe pas. Il va vous répondre « je suis maronite, je suis syriaque, je suis chaldéen », etc. Mais jamais il va vous dire « je suis chrétien d'Orient ». Donc, chrétien d'Orient, c'est un mot qui est utilisé beaucoup en Occident, finalement, un peu par opposition aux chrétiens d'Occident. Mais ça voudrait dire aussi que les chrétiens ici se définissent comme des chrétiens d'Occident, ce qui n'est pas le cas. Donc finalement, c'était aussi pour dire on était obligé, dans le titre, d'utiliser ce mot chrétien d'Orient, parce que c'est un mot qui a été généralisé et dont on sait à peu près aujourd'hui ce qu'il recouvre. Mais néanmoins, c'est quand même une facilité de langage, en tout cas.
Et cette lumière dont nous parlons, qu'est-elle exactement ?
C'est vrai que souvent les chrétiens d'Orient sont réduits aux épisodes tragiques parce que malheureusement ils ont été beaucoup beaucoup persécutés. Et en fait, quand on travaille vraiment de près sur le sujet, au lieu de voir ressortir ces tragédies-là qui sont évidemment terribles et qui font partie de leur parcours, de leur destin et de leur foi aussi, c'est très ancré. Mais on se rend compte surtout que leur histoire est lumineuse. C'est une histoire qui est magnifique. À tout point de vue, c'est un rayonnement spirituel, intellectuel, artistique. Ils ont été des acteurs incontournables de toute l'évolution de la région depuis 2000 ans. Et ils ont un courage aussi immense. Et c'est vrai que quand on s'intéresse un petit peu à leur liturgie, à la beauté de la liturgie, à leur manière de parler du Christ et de ne jamais renier cette foi malgré justement toutes les difficultés qu'ils ont eues, ou même encore récemment, ils continuent à aller à l'église. l'église, elle se rassemble à l'église, elle est à la messe, alors que il y a des attentats, il y a des meurtres, qu'ils risquent leur vie, et ils continuent quand même à aller célébrer le Christ ensemble. Donc il y a cette communion-là qui est formidable, et cette lumière-là, cette espérance-là, qui malgré tout ce qu'ils ont souffert, ce qu'ils ont enduré, et qu'ils continuent malheureusement aujourd'hui d'endurer, bien, ils continuent à avoir cette espérance-là et cette lumière merveilleuse qui devrait être un exemple pour nous.
Alors vous évoquez un passage absolument saisissant, l'ouverture du tombeau du Christ à Jérusalem, donc dans le Saint-Sépulcre. Je crois que c'est le résultat de fouilles archéologiques qui ont été entreprises dans les années 2015-2017. Quel est votre sentiment par rapport à cet événement ?
Oui, c'est merveilleux parce qu'il y a eu deux choses vraiment très très symboliques, très éclairantes à mon sens. C'est que d'abord, donc c'était pour des fouilles archéologiques, donc ils ont ouvert le tombeau du Christ qui n'avait pas été ouvert depuis plusieurs siècles, et il s'est passé quelque chose de très étrange, c'est-à-dire que tous les instruments de mesure se sont arrêtés. Évidemment, il y avait des instruments de mesure, des ordinateurs pour mesurer les ondes, etc., et des choses vraiment très très pointues, du matériel très pointu. Et il se trouve que donc il y avait des scientifiques aussi sur place, des archéologues, des historiens, des scientifiques, et même les scientifiques n'ont pas réussi à expliquer pourquoi spécifiquement à ce moment-là plusieurs instruments de mesure, pas un seul, plusieurs instruments de mesure sont tombés en panne ou ont cessé de fonctionner correctement. C'était vraiment à l'ouverture du tombeau. Et après, quand on est croyant, on peut imaginer que ça a quelque chose à voir aussi avec le rayonnement de la résurrection, par exemple. Mais c'est quand même quelque chose que même les scientifiques ne peuvent pas expliquer. Donc il y a vraiment une interrogation par rapport à ça. Et c'était un moment de recueillement merveilleux. Et d'un autre point de vue, il y a une deuxième chose aussi qui a été merveilleuse quand on a ouvert ce tombeau pour ces restaurations, c'est qu'il y a eu un moment d'entente, de pleine entente, de parfaite entente et de communion entre les différentes communautés du Saint-Sépulcre.
Je me permets de vous arrêter, le miracle il est peut-être là finalement, c'est que les Grecs, les Arméniens et les Latins ont pu cohabiter dans ce même espace sans se taper dessus.
Exactement, parce que pour la première fois depuis très longtemps, c'est vrai qu'il y a souvent des querelles et dans les journaux on a toujours un peu cette image d'Épinal, des chrétiens qui se battent à coups d'encensoirs, mais on n'est pas loin de la vérité parce que parfois il y a des bagarres avec des blessés, enfin ça prend parfois des proportions énormes. Et là, quand ils ont ouvert le tombeau, ils ont bien sûr un temps de prière, chacun un temps de recueillement et tout, et il n'y a eu aucune dispute, c'était vraiment le recueillement, la communion, comme si une lumière comme ça les avait recouverts et pour un moment ils étaient vraiment dans une connexion avec le divin sans plus s'occuper justement de ces petits aspects humains pour avoir la bienséance, pour avoir telle chapelle plutôt qu'une autre, pour avoir le droit de restaurer. Enfin, c'est beaucoup de batailles comme ça depuis très longtemps. Et là, dans ce moment-là, pendant plusieurs jours, c'était l'entente parfaite. Ils ont célébré en toute communion ce grand moment de l'ouverture du tombeau du Christ.
Karine Marie, on vous sent complètement habitée par cette cause, par cette recherche. Combien d'années avez-vous travaillé pour ce livre ?
Après, pour rassembler pour le livre, ça a été un peu plus rapide, mais les recherches, je les fais depuis des années et des années. Comme je vous le disais, déjà en 2017, pour mon roman, j'avais fait des recherches déjà assez poussées, sur une période un peu plus récente néanmoins. Mais et puis, je me suis toujours intéressée au texte biblique, à la théologie. Donc, en fait, je dirais c'est presque le travail d'une vie, parce que même si tout ce que je lisais avant de me mettre à la rédaction de ce livre, je n'imaginais pas, enfin, c'était pas une question que je me posais en tout cas, d'en faire un livre un jour, mais quelque part, depuis toujours, je me nourris de tous ces textes-là, je me nourris de l'imaginaire du Levant, et à un moment donné, donc le moment était comme venu de rassembler tout ça, de structurer tout ça, et de porter témoignage.
Une dizaine d'années de travail peut-être ?
Oui, mais en faisant d'autres choses, et puis j'ai étudié d'autres aspects. J'avais aussi écrit un roman sur le Saint-Suaire, par exemple. Donc là aussi, j'avais fait pas mal de recherches sur le Saint-Suaire, justement sur la résurrection, sur ce que ça pouvait dire, sur l'époque à laquelle le suaire aurait été produit. Donc voilà. Enfin, c'est beaucoup de comment dire, de même un livre qui évoquait la guerre du Liban, par exemple. Donc, c'est plein de choses comme ça, plein de recherches qui étaient un peu compartimentées, je dirais, mais qui allaient toujours vers le même objet, le même but, qui était, de se rapprocher de la vérité, finalement. Je pense que c'est la quête d'une vie. Et donc, moi, j'ai eu la chance, là, avec ce livre-là, de pouvoir mettre en mots, de pouvoir tout ce qui m'habitait depuis si longtemps, de pouvoir en faire un ouvrage pour porter témoignage et pour aussi pour dire aux chrétiens d'Orient, donc les mal nommés chrétiens d'Orient, mais à toutes ces communautés, que nous on est là pour eux, nous on prie pour eux, nous on les soutient, nous on suit ce qui leur arrive, on compatit, on est prêt à les aider de quelque manière que ce soit, et parfois ça peut être aussi en écrivant un livre pour leur dire qu'on les oublie pas, et donc c'est ce que j'ai voulu faire.
Un témoignage personnel, une lettre d'amour presque.
Oui, finalement, c'était un peu ça. Je voulais, et puis j'ai essayé aussi d'être très respectueuse, parce que c'est difficile de parler des chrétiens d'Orient quand on n'est pas soi-même chrétien d'Orient, et donc j'ai vraiment fait très très attention à parce que en France, enfin en Occident en général, quand on parle des chrétiens d'Orient, il y a toujours un peu la victimisation, une petite condescendance, eux ça reste les orientaux, et moi ça c'est un discours qui me gêne beaucoup et que je trouve assez insensé en fait, et donc j'ai voulu vraiment leur rendre cet hommage là, mais il fallait pas non plus que je tombe dans ces mêmes travers que ces autres français occidentaux qui ont écrit sur le sujet. Donc j'ai vraiment fait très attention en essayant à chaque fois de me mettre à leur place, de partager ce qu'ils ont vécu et de faire relire aussi. J'ai fait relire à certains membres des membres de certaines communautés pour être sûr que je blessais pas, même sans le vouloir bien sûr, hein, mais pour être sûr que voilà que ça allait vraiment. Et j'ai eu là dernièrement le livre, au moins s'il a une raison de vivre, c'était celle-là. J'ai reçu des messages du Liban et quelqu'un qui m'a dit je vous remercie de continuer à faire briller cette flamme qui vacille.
Parce que c'est une question de ton, une question d'approche, une question d'humilité aussi peut-être.
Absolument, c'est ça. C'est de se dire qu'en fait c'est nous qui sommes leurs héritiers en fait. C'est eux les premiers chrétiens. Après sur les chrétiens, les gens qui connaissent plus ou moins bien le sujet, mais il y en a qui s'imaginent qu'en fait non, c'était nous les premiers, qu'après il y a eu les croisades et que en fait les chrétiens qui sont là-bas, mais pas du tout, ce sont eux, c'était eux qui étaient là à la Pentecôte, ce sont eux qui ont été persécutés par les Romains, ce sont eux qui ont continué à propager la bonne nouvelle, et c'est nous qui sommes les héritiers de tout ça, c'est nous qui leur sommes redevables de quelque chose, dire donc on doit avoir un respect par rapport à eux, une humilité, c'est eux qui ont construit notre civilisation. Nous sommes les dépositaires de cela. Donc leur rendre un petit hommage comme ça, c'était la moindre des choses. Et il fallait vraiment que ce soit en toute humilité, en toute modestie, et vraiment pour les remercier d'avoir construit cette religion qu'ils continuent à défendre avec autant de piété, autant de ferveur, malgré le contexte si difficile depuis si longtemps.
Alors vous avez une partie sur Grégoire de Nazianze, qui est quelqu'un un des pères cappadociens que nous apprécions particulièrement dans notre émission avec, hein, voilà, sur cette partie-là de l'histoire. Qu'est-ce que vous avez lu ou qu'est-ce qui vous intéresse par rapport à ce IVe siècle, qui est ce siècle charnière où se définissent véritablement les termes de la foi?
Il y a beaucoup de textes que j'ai retrouvés, justement, des pères de l'Église, Grégoire de Nazianze et d'autres, et j'ai trouvé ça d'une folle modernité, en fait. Au départ, on s'est dit, alors, on va lire les pères de l'Église. Je le dis à nos auditeurs, allez-y, parce que ce n'est pas aussi difficile. Alors, il faut se concentrer, il faut avoir envie de comprendre, bien sûr, mais ce n'est pas si difficile que ça à lire, et ce n'est pas quelque chose d'un autre siècle. Parce que c'est toujours une recherche de la foi, comment on peut vivre sa foi, et surtout, il y a ce côté lumineux, justement, dont on parlait tout à l'heure, c'est que c'est un petit peu comme les écrits de Benoît XVI, par exemple, si je peux faire un parallèle avec une grandes figures plus récentes. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les écrits de Benoît XVI, c'est que justement, c'est lumineux. C'est très érudit, c'est très tout ce qu'on veut. On en apprend beaucoup intellectuellement, c'est d'un très haut niveau, mais c'est surtout lumineux. Il y a une transcendance, et c'est ce qu'on retrouve justement dans tous ces pères des premiers siècles. C'est qu'il y a cette lumière. On voit que l'approche, même si elle est hautement intellectuelle, parce que ce sont vraiment de beaux esprits, mais que le but ultime, c'est de se rapprocher de Dieu et comment servir Dieu le mieux possible. Et on a cette lumière là, et c'est très intéressant de revenir au texte. Encore une fois, voyez, c'est revenir aux sources, que ce soit pour les archives diplomatiques, que ce soit pour ces textes-là, parce que je pense qu'il y a toujours quelque chose à en tirer quand on lit les textes bruts, en fait. Et c'est aussi une manière de revoir notre rapport à la foi, aussi aujourd'hui, où la foi est enseignée de manière différente. Évidemment, on est 20 siècles plus tard, enfin, pour les auteurs du 4e, 16 siècles plus tard, mais enfin, ouais, ça, c'est la manière dont on enseigne la foi aujourd'hui, évidemment, a évolué, a changé, et revenir au texte originel, c'est vraiment se réemparer du christianisme originel et d'aller au plus près de la vérité.
Karine Marais, je vous remercie infiniment d'être venue jusque dans notre émission ce dimanche matin. Je rappelle le titre de votre livre, Les chrétiens d'Orient et la France, 1000 ans d'une passion tourmentée.
Merci beaucoup Sébastien.
Je précise que la préface est de Jean-François Colosimo. Voilà, on ne l'avait
pas
dit.
Très important.
Voilà, les éditions Ballant. On peut remercier les éditeurs aussi. Merci à François Connac pour la réalisation, Claire Poinsignon et Manon Houssin pour la technique. Nous retrouvons maintenant le rendez-vous protestant. Solae, bon dimanche.